Il était poète et citadin. La campagne, où ma mère semblait se sustenter de toute sève et reprendre vie chaque fois qu'en se baissant elle en touchait la terre, éteignait mon père, qui s'y comporta en exilé. Elle nous sembla parfois scandaleuse, la sociabilité qu'il appelait vers la politique des villages, les conseils municipaux, la candidature au conseil général, vers les assemblées, les comités régionaux où l'humaine rumeur répond à la voix humaine. Injuste, nous lui en voulions vaguement de ne pas assez nous ressembler, à nous qui nous dilations d'aise loin des hommes. Je m'avise à présent qu'il cherchait à nous plaire, lorsqu'il organisait des parties de campagne comme font les habitants des villes. La vieille Victoria bleue emportait famille, victuailles et chiens jusqu'au bord d'un étang. Moutier, chassin ou la jolie flaque forestière de la Guillemette qui nous appartenait. Mon père manifestait le sens du dimanche, le besoin urbain de fêter un jour entre les 7 jours, au point qu'il se munissait de cannes à pêche et de sièges pliants. Au bord de l'étang, il essayait une humeur joviale qui n'était pas son humeur joviale de la semaine. Il débouchait plaisamment la bouteille de vin, s'accordait une heure de pêche à la ligne, lisait, dormait un moment. Et nous nous ennuyions, nous autres, Sylvains au pied léger, entraînés à battre le pays sans voiture et regrettant, devant le poulet froid, nos encas de pain frais, d'ail et de fromage. La libre forêt, l'étang, le ciel double exaltaient mon père, mais à la manière d'un noble décor. Plus il évoquait le bleu Titarèse et le golfe d'argent, plus nous devenions taciturnes. Je parle des deux garçons et de moi. Nous qui n'accordions déjà plus d'autre aveu à notre culte bocager que le silence. Assise au bord de l'étang, entre son mari et ses enfants sauvages, seule ma mère semblait recueillir mélancoliquement le bonheur de Comté, gisant contre elle, sur l'herbe fine et jonceuse, rougie de bruyère, ses bien-aimés. Loin du coup de sonnette importun, loin de l'anxieux fournisseur impayé, loin des voies côteleuses, un cirque parfait de bouleaux et de chaînes enfermait, j'excepte l'infidèle fille aînée, son œuvre et son tourment. Courant en risée sur les cimes des arbres, le vent franchissait la brèche ronde, touchait rarement l'eau. Les dômes des mousserons rosés crevaient le léger terreau, gris d'argent, qui nourrit les bruyères, et ma mère parlait de ce qu'elle et moi nous aimions le mieux. Elle comptait les sangliers des anciens hivers, les loups encore présents dans la puisée et la forterre, le loup d'été, maigre, qui suivit 5 heures durant la Victoria. Si j'avais su quoi lui donner à manger, il aurait bien mangé du pain. À toutes les côtes, il s'asseyait pour laisser à la voiture son avance d'une 50aine de mètres. De le sentir, la jument était furieuse. Un peu plus, c'est elle qui l'eût attaqué. Tu n'avais pas peur ? Peur ? Non ! Ce pauvre grand loup gris, sec, affamé sous un soleil de plomb. D'ailleurs, j'étais avec mon premier mari. C'est lui aussi, mon premier mari, qui en chassant, a vu le renard noyer ses puces. Une touffe d'herbe entre les dents, le renard est entré le derrière, le premier, peu à peu, dans l'eau, jusqu'au museau. Paroles innocentes, enseignements maternels que donnent aussi à leurs petits l'hirondelle, la mère lièvre, la chatte, récits délicieux dont mon père ne retenait qu'un mot, mon premier mari. Et il appuyait sur Sido, ce regard bleu-gris dans lequel personne n'a jamais pu lire. Que lui importait d'ailleurs le renard, le muguet, la baie mûre, l'insecte ? Il les aimait dans des livres, nous disait leurs noms scientifiques, et dehors les croisait sans les reconnaître. Il louait, sous le nom de Rose, toute corolle épanouie. Il prononçait « lo », bref, à la provençale, en pinçant entre le pouce et l'index une rose invisible. Le soir tombait enfin sur notre dimanche au champ. De 5, nous n'étions souvent plus que 3, mon père, ma mère et moi. Le rempart circulaire des bois assombris avait résorbé les 2 longs garçons osseux, mes frères. « Nous les rattraperons sur la route, en revenant, » disait mon père. Mais ma mère secouait la tête. Ces garçons ne rentraient que par des sentes de traverse, des prés marécageux et bleus. Coupant par les sablières, les ronciers, ils sautaient le mur au fond du jardin. Elle se résignait à les trouver chez nous, à la maison, un peu saignant, un peu loqueteux. Elle reprenait sur l'herbe les reliefs du repas, quelques champignons frais cueillis, le nid de mésanges vide, la cartilagineuse éponge cloisonnée, œuvre d'une colonie de guêpes, le bouquet sauvage, des cailloux empreints d'ammonites fossiles, le grand chapeau de la petite, et mon père, encore agile, remontait d'un saut d'échassier dans la Victoria. C'est ma mère qui caressait la jument noire, qui offrait à ses dents jaunies des pouces tendres et qui essuyait les pattes du chien pataugeur. Je n'ai jamais vu mon père toucher un cheval. Nulle curiosité ne l'a attiré vers un chat, penché sur un chien. Jamais un chien ne lui a obéi. « Allons, monte !» ordonnait à Mofino, la belle voix du capitaine. Mais le chien, contre le marchepied de la voiture, battait de la queue froidement et regardait ma mère. « Monte, animal, qu'est-ce que tu attends ?» répétait mon père. « J'attends l'ordre, » semblait répondre le chien. « Hé, saute !» lui criai-je. Il ne se le faisait pas dire deux fois. « C'est très curieux, » constatait ma mère. « Ça prouve seulement la bêtise de ce chien, » répliquait mon père. « Mais nous n'en croyons rien, nous autres. » Et mon père, au fond, se sentait secrètement humilié. Les genêts jaunes, bottelés, faisaient queue de pan derrière nous dans la capote de la vieille voiture. Mon père, en approchant du village, reprenait son fredon défensif, et nous avions sans doute l'air très heureux, car l'air heureux était notre suprême et mutuelle politesse. Soir commençant, fumée courante sur le ciel, fiévreuse première étoile, est-ce que tout autour de nous n'était pas aussi grave et aussi tremblant que nous-mêmes? Un homme, banni des éléments qu'il avait jadis portés, rêvait amèrement. Amèrement. Maintenant, j'en suis sûre. Il faut du temps à l'absent pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, il mûrit, il se fixe. C'est donc toi? Enfin, je ne t'avais pas compris. Il n'est jamais trop tard, puisque j'ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois. Mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. Nous n'avions presque pas conscience qu'il lui manqua, coupé en haut de la cuisse, une jambe. Qu'eussions-nous dit à le voir soudain marcher comme tout le monde? Ma mère elle-même ne l'avait connu qu'étayé de béquilles, preste et rayonnant d'insolence amoureuse. Mais elle ignorait, fait d'armes exceptées, l'homme qui datait d'avant elle, le Saint-Cyrien beau danseur, le lieutenant solide comme un bois debout, ainsi l'on nomme dans mon pays natal l'antique billot, la rouelle de chêne au grain serré que n'entame pas le hachoir. Elle ignorait, quand elle le suivait des yeux, que ce mutilé avait autrefois pu courir à la rencontre de tous les risques. Amèrement, le plus ailé de lui-même s'élançait encore, lorsqu'assis et sa chanson suave aux lèvres, il restait aux côtés de Sido. L'amour, et rien d'autre. Il n'avait gardé qu'elle. Autour d'eux, le village, les champs, les bois, le désert. Il pensait qu'au loin, ses amis, ses camarades, continuaient. D'un voyage à Paris, il revint l'œil voilé, parce que Davout d'Auerstadt, grand chancelier de la Légion d'honneur, lui avait enlevé son ruban rouge pour le remplacer par une rosette. « Tu ne pouvais pas me la demander, vieux ?»«
Je n'avais pas demandé le ruban non plus, » répondit légèrement mon père.
Mais il nous conta la scène d'une voix enrouée. Où situer la source de son émotion? Il portait cette rosette, généreusement épanouie, à sa boutonnière. Le buste droit, le bras posé sur la barre de sa béquille, il paradait dans notre vieille voiture, dès l'entrée du village, pour les premiers passants de la Gerbaude. Rêvait-il aux divisionnaires qui marchaient sans étai et défilaient sur des chevaux, Février, Désandré, Fournès, qu'il avait sauvé et le nommait encore, délicatement, mon capitaine. Un mirage de société savante, peut-être de politique, de tribune, de chatoyante algèbre, un mirage de joie d'homme. « Tu es si humain !» lui disait parfois ma mère, avec un accent d'indéfinissable suspicion. Elle ajoutait, pour ne le point trop blesser, « Oui, tu comprends, tu étends la main pour savoir s'il pleut. » Il était grivois en anecdote. La présence de ma mère arrêtait sur ses lèvres l'histoire toulonnaise ou africaine. Elle, vive en parole, se modérait chastement devant lui. Mais distraite, entraînée par un rythme familier, elle se surprenait à fredonner des sonneries dont les textes furent transmis, sans altération, des armées impériales aux armées républicaines. « Ne nous gênons plus, » disait mon père derrière le temps déployé. « Oh !» suffoquait ma mère, « pourvu que la petite n'ait pas entendu. »« Pour la petite, » repartait mon père, « ça n'a pas d'importance. » Et il attachait sur sa créature choisie l'extraordinaire regard gris-bleu, plein de bravade, qui ne versait ses secrets à personne, mais qui avouait parfois
j'ai des secrets. J'essaie, seul, d'imiter ce regard de mon père. Il m'arrive d'y réussir assez bien, surtout quand je m'en sers pour me mesurer avec un tourment caché. Tant est efficace le secours de l'insulte à ceux qui vous dominent le mieux, et grand le plaisir de fronder un maître. Je mourrai peut-être de toi, mais crois bien que j'y mettrai le plus de temps possible. La petite, ça n'a pas d'importance. Quelle candeur, voyez ? Et comme il butait contre son amour, son seul amour. Je lui plaisais cependant, par des traits où il se fut reconnu, mais il me distinguait mal. Il perdait peu à peu le don d'observer, la faculté de comparer. Je n'avais pas plus de 13 ans quand je remarquai que mon père cessait de voir, au sens terrestre du mot, sa Sido elle-même. « Encore une robe neuve ? » s'étonnait-il. « Peste, madame !» Interloqué, Sido le reprenait sans gaieté. « Neuve, Colette, voyons, où as-tu les yeux ?» Elle pinçait entre deux doigts une soie élimée, une visite perlée de jais. « 3 ans, Colette, tu m'entends ? Elle a 3 ans, et ce n'est pas fini !» ajoutait-elle avec une hâte fière. « Teinte en bleu marine !» Mais il ne l'écoutait plus. Il l'avait déjà jalousement rejointe, dans quelques lieux élus où elle portait chignon à boucle anglaise et corsage ruché de tulle, ouvert en cœur. En vieillissant, il ne tolérait même plus qu'elle eût mauvaise mine, qu'elle fût malade. Il lui jetait des « Allons, allons !» comme à un cheval qu'il avait seul le droit de surmener. Et elle allait. Je ne les ai jamais surpris à s'embrasser avec abandon. D'où leur venait tant de pudeur ? De Sido, assurément. Mon père n'y eut pas mis tant de façons. Attentif à tout ce qui venait d'elle, il écoutait son pas vif, l'arrêtait au passage. « Paix !» lui ordonnait-il en désignant sa pommette nue au-dessus de sa barbe. « Ou on ne passe pas !» Elle payait, au vol, d'un baiser vif comme une piqûre, et s'enfuyait, irritée, si mes frères ou moi l'avions vue payer. Une seule fois, en été, un jour que ma mère enlevait de la table le plateau du café, je vis la tête, la lèvre grisonnante de mon père, au lieu de réclamer le péage familier, penchée sur la main de ma mère avec une dévotion fougueuse, hors de l'âge, et telle que Sido, muette, autant que moi empourprée, s'en alla sans un mot. J'étais petite encore, assez vilaine, occupée comme on l'est à 13 ans de toute chose dont l'ignorance pèse, dont la découverte humilie. Il me fut bon de connaître et de me remettre en mémoire, par moments, cette complète image de l'amour. Une tête d'homme, déjà vieux, abîmée dans un baiser sur une petite main de ménagère, gracieuse et ridée. Il trembla longtemps de la voir mourir avant lui. C'est une pensée commune aux amants, aux époux bien épris, un souhait sauvage qui bannit toute idée de pitié. Sido, avant la mort de mon père, me parlait de lui, aisément soulevé au-dessus de nous. Il ne faut pas que je meure avant lui. Il ne le faut absolument pas. Vois-tu que je me laisse mourir et qu'il se tue et qu'il se manque ? Je le connais, disait-elle d'un air de jeune fille. Elle rêvait un peu, les yeux sur la petite rue de Châtillon-Coligny ou sur le carré de jardin prisonnier. Moi, je risque moins, tu comprends ? Je ne suis qu'une femme. Passé un certain âge, une femme ne meurt presque jamais volontairement. Et puis je vous ai, en outre. Lui, il ne vous a pas. Car elle savait tout. Et jusqu'aux préférences indicibles. Dans la grappe pendue à ses flancs, à ses bras, mon père pesait comme nous, et ne nous soutenait guère. Elle fut malade, et il s'assit fréquemment près du lit. « À quelle heure, quel jour seras-tu guérie ? Gare, si tu ne guéris pas ! J'aurai bientôt fait de ne plus vivre !» Elle ne supportait pas cette pensée d'homme, sa menace, son exigence sans merci. Pour lui échapper, elle tournait de côté et d'autre sa tête sur l'oreiller, comme elle fit plus tard pour secouer les derniers liens. « Mon Dieu, Colette, tu me tiens chaud !» se plaignait-elle. « Tu remplis toute la chambre. Un homme est toujours déplacé au chevet d'une femme. Va dehors, va voir s'il y a des oranges pour moi chez l'épicier. Va demander à Monsieur Rosimond de me prêter la revue des deux mondes. Mais marche doucement, le temps est orageux, tu reviendrais en moiteur. » Il obéissait, l'aisselle remontait sur sa béquille. « Tu vois ?» disait ma mère derrière lui. « Tu vois cet air de vêtements vides qu'il prend quand je suis malade ?» Sous la fenêtre, en s'en allant, il éclaircissait sa voix pour qu'elle l'entendît. « Je pense à toi, je te vois, je t'adore. à tout instant, à toute heure, en tout lieu. Je pense à toi quand je revois l'aurore. Je pense à toi quand je ferme les yeux.
« Tu l'entends ?» disait-elle fiévreusement.
Mais sa malice supérieure rajeunissait soudain tout son visage, et elle se penchait hors de son lit.
« Ton père ? Tu veux savoir ce que c'est que ton père ?
Ton père, c'est le roi des maîtres chanteurs. » Elle guérit. Elle guérissait toujours. Mais quand on lui enleva un sein, et 4 ans après, l'autre sein, mon père conçut d'elle une méfiance terrible, quoiqu'elle guérit encore, chaque fois. Pour une arête de poisson qui restait au gosier de ma mère l'obligeait à tousser violemment, les joues congestionnées et les yeux pleins de larmes, mon père, d'un coup de poing asséné sur la table, dispersa en éclats son assiette et cria furieusement « Ça va finir !»
Elle ne s'y trompa point et l'apaisa avec une délicatesse miséricordieuse, des mots plaisants, de voltigeants regards. J'emploie toujours ces mots, voltigeants regards, quand il s'agit d'elle. L'hésitation, le besoin d'un tendre aveu, le devoir de mentir l'obligeaient à battre des paupières, tandis qu'allait, venait précipitamment ses prunelles grises. Ce trouble, cette fuite vaine des prunelles poursuivies par un regard d'homme bleu-gris, comme le plomb fraîchement coupé, c'est tout ce qui me fut révélé de la passion qu'il y a, pour leur vie entière, Sido et le capitaine.